Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Laye, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Jean-Noël Cimetière et Claude Jeannin.
Histoire du cardinal Fesch, oncle de Napoléon. Tu sais, cet été, je suis parti en vacances en Corse et à mon passage à Ajaccio, j'ai eu envie de profiter de la douceur de la fin de journée pour flâner un peu le long de la mer. Et au contour d'une rue, je me suis trouvé devant une imposante façade bordée de jardins, avec une magnifique statue trônant au milieu de la cour.
Mais de quel bâtiment tu parles avec une si belle façade et cette statue? Parce que moi aussi, je suis allé en Corse et j'ai vu des beaux bâtiments à Ajaccio, mais pas celui-ci.
Eh bien, c'était le musée du cardinal Fesch, avec au centre de la cour d'honneur, la statue de celui qui dota ce bâtiment d'un millier d'œuvres et d'objets d'art.
Mais attends, dimanche dernier, justement, j'étais à la messe à l'église de Saint-Symphorien-de-Laye et mon voisin m'a demandé quelle était l'origine des quatre grands tableaux accrochés sur les murs du chœur. Je lui ai répondu que je ne savais pas, mais il y aurait un lien.
Ouais, je vais te faire sourire, hein, mais sais-tu qu'il y a un point commun entre le musée d'Ajaccio et les peintures de l'église?
Ah non, eh bien vas-y, dis-nous tout.
Les tableaux que ton voisin t'a montrés dimanche dans le chœur de l'église appartiennent à la collection du cardinal Fesch au même titre que ceux que l'on peut voir à Ajaccio. C'est bien étrange tout ça.
Ah oui, mais raconte-moi cette histoire du cardinal Fesch et dis-moi justement d'où vient ce lien entre Saint-Symphorien-de-Laye et Ajaccio, parce que je le vois toujours pas.
Ben, je vais te dire, Fesch, de son prénom Joseph, est né à Ajaccio le 3 janvier 1763 et dès sa naissance, de bonnes fées veillèrent sur lui, en raison de ses liens familiaux, puisqu'il était tout simplement l'oncle de Napoléon Ier.
Mais alors, par quel concours de circonstances, par quelle généalogie?
Alors, Charles Bonaparte, père de Napoléon, avait épousé Laetitia Ramolino, dont la mère Angela Maria Pietra Santa, veuve du patriote Ramolino, s'était remariée avec le brave François Fesch, premier lieutenant dans le régiment suisse de Bocard, au service de la France depuis 1672. Et de ce second mariage de Madame Veuve Ramolino est né Joseph Fesch, d'origine suisse par son père, né de sang corse par sa mère, ce qui explique la physionomie germanique de son nom. Et peu de temps après son avènement au trône, Louis XVI avait ordonné que l'école royale militaire de Brienne et la maison de Saint-Louis à Saint-Cyr reçoivent à ses frais un certain nombre de jeunes gens de la noblesse corse. Et on admettait aussi, dans le séminaire d'Aix, toujours aux frais du roi, 20 insulaires roturiers choisis par les états généraux de la Corse. Et c'est dans ce dernier établissement que Joseph Fesch fut admis à l'âge de 13 ans.
Mais comme dans tout séminaire, il a pu rentrer avec sa situation de roturier.
Ben, il avait fait quelques études préparatoires à Ajaccio, dans une maison d'éducation tenue par des jésuites réfugiés en Corse. Il était d'une intelligence assez médiocre, et assurément, s'il n'eût pas été l'oncle de Napoléon, je crois bien qu'il ne serait jamais arrivé à une dignité éminente dans l'ordre ecclésiastique. Il suivit sans éclat, mais avec une louable persévérance, les cours de philosophie et de théologie au séminaire d'Aix. Après 7 ans de séminaire, le jeune Corse rentre à Ajaccio, où Monseigneur Doria va l'ordonner prêtre, puis Fesch prend le titre d'archidiacre.
Oui, mais ensuite, il y a eu la Révolution, et c'était une période où l'Église n'avait plus droit au chapitre, donc il est devenu quoi?
Alors, il protesta de toutes ses forces contre la constitution civile du clergé, et les chapitres ayant été supprimés, il rentra dans sa famille. Mais la famille Bonaparte resta fidèle à la France et lutta énergiquement contre l'insurrection révolutionnaire. Mais Fesch changea tout à coup de principe. Il adopta pleinement les idées révolutionnaires, les idées de la Révolution, et peut-être eut-il eu une certaine influence sur les brillantes destinées de cette famille.
Oui, finalement, après avoir loué le Seigneur, il a loué un Bonaparte.
Oui, oui, si vous voulez. Le Conseil supérieur de Lille, ayant déclaré infâme ceux qui se faisaient l'écho de la France et les ayant chassés de leur demeure, les Bonaparte se trouvèrent sur la paille, sans asile, dans les environs de Calvi. Enfin, Après, il partira à Toulon par la mer, et là, on pouvait décompter 5 fils, 3 filles, la mère et l'oncle Fesch, tous pauvres, tous obligés de gagner leur vie en travaillant. Et malheureusement, l'archidiacre renonça même à son costume ecclésiastique, et heureusement, le général Brunet, à ce moment-là, lui fit obtenir un emploi de garde-magasin dans sa division de l'armée des Alpes.
Oui, mais on ne voit toujours pas le lien et l'influence du lien de parenté avec son neveu Bonaparte, qui était le futur Napoléon.
Ah bah, tu vas voir, hein. Tu vas voir. Plus tard, Bonaparte est devenu général en chef de l'armée d'Italie, le nomma donc à cette occasion commissaire des guerres. Et tout en s'occupant des innombrables détails matériels que comporte l'entretien d'une armée, Joseph Fesch s'en profita pour se livrer à un genre d'occupation qui ne paraît pas un titre bien recommandable à nos yeux. Il collectionnait les tableaux. Ainsi, Bonaparte, quand il avait conquis une ville, s'arrogeait le droit de la priver de ses plus beaux objets d'art et bien entendu sur tous ses tableaux. Et même deux savants, Monge et Berthollet, l'accompagnaient dans ses pirateries artistiques et étaient chargés de composer le butin. La méthode, on choisissait les meilleures toiles et les autres étaient partagées entre les officiers. Fesch alors conçut l'idée d'ouvrir un asile, on peut appeler ça comme ça, à tous les tableaux refusés et se mit en quête de les récupérer. Mais comme ce petit nombre ne suffisait pas à l'avidité du futur cardinal, lui-même, il achetait aux officiers, à un prix généralement très modique, tous ceux qu'il pouvait trouver. Et ben ainsi, il s'était formé une magnifique collection dont il laissa en mourant une bonne partie au musée de Lyon.
Finalement, le Troisième Reich, en pillant les œuvres d'art dans les villes, n'a rien inventé. Maintenant, je comprends mieux. Mais dis-moi, est-ce que les tableaux qui sont arrivés à l'église de Saint-Symphorien-de-Lay sont arrivés de cette manière-là ?
En effet, la commune de Saint-Symphorien possède dans son église 6 tableaux provenant des collections du cardinal Fesch. Et les historiens locaux, alors paraît-il notamment l'association des chemins du passé, ont cru pendant de nombreuses années à un cadeau du cardinal lui-même à notre église. Mais des recherches récentes établissent que les tableaux furent achetés par le curé du nom Roux à la fin du 19e siècle. Et à ce moment-là, pendant la campagne d'Égypte, Fesch se fit le tuteur et le gardien de sa famille, et là, il remplit ses fonctions avec un tel zèle et un tel dévouement qu'on ne saurait trop le louer.
Et à l'arrivée de Bonaparte comme premier consul, l'ascension de Fesch s'est-elle confirmée ?
Oui, peu de temps après, sous le consulat, nous voyons reparaître Joseph Fesch, mais cette fois à nouveau revêtu de son habit ecclésiastique. Il prend part notamment au Concordat, et le 15 août 1802, il est sacré archevêque de Lyon, puis nommé cardinal. Il devint même successivement membre de la Légion d'honneur, sénateur, et puis fut décoré en juillet par le roi d'Espagne Charles VI, le très renommé Ordre de la Toison d'or. Puis, il fut au commencement de 1803 nommé ministre plénipotentiaire de la République française auprès du pape, en remplacement de Cacco, diplomate pourtant très estimé par Bonaparte.
Mais pourquoi l'aurait-il remplacé ? Parce qu'il était bien facile de trouver d'autres importantes missions au cardinal Fesch.
Eh oui, mais Bonaparte avait une petite idée derrière la tête. C'était d'aboutir à se faire couronner empereur et donc de compter sur son oncle pour négocier avec le pape Pie VII.
En quelque sorte, Fesch était l'homme de la circonstance et de la situation puisqu'il semblait avoir toutes les qualités nécessaires pour une telle mission.
Exactement. Le cardinal fit son entrée à Rome le 2 juillet ayant pour secrétaire de légation le bien connu monsieur de Chateaubriand. Pie VII était très naturellement disposé à couronner le nouvel empereur et il espérait en effet tirer de cet acte pontifical de grands avantages pour la puissance ecclésiastique. Donc le cardinal Fesch le reçut dans sa ville archiépiscopale avec une telle distinction que le Saint-Père crut devoir en parler de la manière suivante dans le consistoire secret du 26 juin 1805.
Nous avons été reçus avec une généreuse magnificence par le cardinal Fesch, dont les bons offices et les soins affectueux envers nous sont au-dessus de toute expression. Nous nous réjouissons de trouver ici l'occasion de le publier et de lui témoigner notre gratitude. Mais qu'est devenu le tout-puissant cardinal Fesch quand son neveu commença à connaître ses premiers revers qui devaient finalement aboutir à sa chute en 1814 ? Et est-ce qu'on parlait toujours de lui dans la région ?
Justement, cette année-là, Lyon était menacée par les Autrichiens. Et le cardinal suivit les autorités jusqu'à Rouen, et peu après, il se retira dans la communauté de religieuses fondée à Pradines, près d'ici. Mais bientôt, forcé de s'en éloigner, il se rendit à Rome où Pie VII lui fit le meilleur accueil. Il y resta dans le silence et l'inaction jusqu'au 20 mars, et ensuite il revint alors à Paris et fut promu par son neveu à la dignité de père le 4 juin 1815. Après les 100 jours, forcé encore une fois de quitter la France, il fut escorté par un général autrichien. Et arrivé à Sienne, il fut prié de donner sa démission d'archevêque de Lyon, mais il s'y refusa.
Et est-ce que le cardinal Fesch a survécu longtemps après la mort de son neveu à l'île de Sainte-Hélène ?
Oui. Le reste de sa vie, il le passa à Rome, un peu comme un exilé. Et il mourut là-bas le 13 mai 1839, après avoir vu s'éteindre autour de lui tous les êtres qui pouvaient consoler ses derniers instants.
Eh oui.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Jean-Noël Cimetière et Claude Jeannin.